Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne podcast de Cessia. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un sujet passionnant et essentiel, l'accessibilité.
VoiceOver activé.
Si vous aimez plonger dans des discussions enrichissantes et explorer de nouvelles perspectives, vous êtes au bon endroit. Laissez-nous vos impressions en commentaire et embarquez avec nous pour cette aventure captivante.
On reçoit des dizaines de communiqués de presse chaque semaine et, bon, soyons honnêtes, 99% d'entre eux, c'est du jargon marketing assez indigeste.
Oui, c'est souvent le cas.
Mais de temps en temps, on tombe sur une petite pépite. Aujourd'hui, on va décortiquer un document de 2 pages. Une entreprise qui s'appelle Cessia.
D'accord.
Et à première vue, ça annonce juste un chatbot de plus. Mais en creusant un peu, on y a trouvé une vraie leçon sur ce que l'intelligence artificielle pourrait vraiment être.
C'est souvent ça, en fait. C'est dans les annonces les plus modestes qu'on trouve les idées les plus puissantes.
Mmh.
Tout le monde parle de ChatGPT, de l'IA qui va changer le monde.
Bien sûr.
Mais ici, la technologie en elle-même, c'est pas vraiment ça la nouvelle. Le plus intéressant, c'est de regarder qui l'utilise et surtout, dans quel but. Le vrai titre, c'est pas « Une entreprise lance un chatbot », c'est plutôt « Comment une technologie de pointe peut servir une mission qui, elle, est vieille de plusieurs décennies ?»
Alors commençons par ça, justement, par le qui. Avant même de parler d'IA, l'identité de l'entreprise m'a interpellé. Quand on pense innovation IA, on imagine une start-up de 2023, des jeunes développeurs.
Dans un garage, oui.
Voilà. Mais le détail qui m'a le plus frappé dans ce document, c'est une date. 1987.
Ah oui.
Cessia a été fondée en 1987. Ça paraît complètement contre-intuitif, non?
Au contraire. Pour moi, c'est peut-être l'information la plus cruciale de tout le document. Ça recadre complètement l'annonce.
Comment ça?
Mais ça nous dit que l'innovation ici, elle n'est pas juste technologique, elle est sociétale. On n'a pas affaire à une boîte de la tech qui a découvert le marché de l'accessibilité.
Qui surfe sur la vague.
Exactement. On a une organisation qui connaît intimement les besoins de sa communauté depuis plus de 35 ans. Ils ne découvrent pas un problème, ils servent leurs clients de toujours avec un nouvel outil. Leur crédibilité est immense.
C'est un point fondamental, ça. Ils ne sont pas en train de deviner ce dont les personnes déficientes visuelles ont besoin.
Non, ils le savent.
C'est leur métier.
Et donc, ils intègrent l'IA de ChatGPT, non pas comme un gadget, mais comme une solution à des problèmes qu'ils ont déjà identifiés depuis longtemps.
Voilà. Et ça nous amène au cœur de l'annonce. Ils lancent un chat intelligent, accessible. Ce qui est radicalement différent d'un chat intelligent qu'on aurait rendu accessible après coup. La nuance est énorme. Énorme. D'habitude, le processus, c'est... On crée un produit pour le grand public et puis on y ajoute des rustines pour l'accessibilité. On coche la case. C'est ça. Ici, le document suggère que le point de départ, c'était la question « Comment on utilise cette nouvelle technologie pour créer un outil nativement accessible qui résout les problèmes de nos utilisateurs ?» L'accessibilité, ce n'est pas une fonctionnalité, c'est le fondement du projet. Pour que ce soit bien concret, voyons ce que l'outil peut faire. Le communiqué est très précis. Il ne dit pas juste « posez vos questions ». Il donne des exemples. On peut demander de l'aide pour choisir un produit adapté à une pathologie spécifique.
D'accord.
On peut comparer plusieurs équipements. Rien que ça. Imaginez la complexité pour une personne malvoyante de comparer 2 fiches techniques sur un site web classique avec un lecteur d'écran.
Ah, c'est un cauchemar. En passant d'une page à l'autre, oui.
C'est un cauchemar.
L'IA peut synthétiser et présenter l'info de manière structurée, directe. L'outil peut aussi donner un prix, une disponibilité, suivre une commande ou trouver les coordonnées. Mais ce qui est fascinant, ce n'est pas la liste de tâches en soi.
C'est ce que ça représente.
C'est ce que ça représente en termes d'autonomie.
Développer ce point, parce que c'est vraiment le cœur du sujet, je pense.
Pensez-y concrètement. Avant cet outil, si une personne malvoyante voulait comparer 2 produits complexes à 22 heures, elle devait probablement attendre le lendemain.
Les heures d'ouverture.
Les heures d'ouverture du service client, appeler un conseiller. Elle dépendait des horaires de l'entreprise, de la disponibilité de quelqu'un. Il y avait une barrière.
Une barrière que la plupart d'entre nous ne voient même pas.
Justement. Avec cet outil accessible 24/7, cette personne obtient l'information instantanément, de manière autonome. C'est un transfert de contrôle.
Oui.
Ce n'est plus l'entreprise qui dicte quand l'information est dispo, c'est l'utilisateur qui accède quand il en a besoin. Le communiqué le dit, l'objectif c'est de donner davantage de liberté. Ce n'est pas un simple gain de temps, c'est un gain de dignité.
Il y a un détail dans le communiqué que j'ai trouvé presque comique au début, mais qui est en fait très révélateur.
Oui ?
Ils précisent que le chatbot ne répond qu'aux questions sur Cessia, et ils ajoutent, virgule, « il ne vous donnera pas la météo ». Ça peut paraître anodin, mais je trouve ça génial.
Ah, mais c'est un détail brillant !
C'est brillant parce que ça montre qu'ils ont résisté à la tentation du gadget.
C'est ça. La tendance avec l'IA, c'est de vouloir créer des outils qui font tout, des couteaux suisses omniscients. En disant clairement « il ne fait pas ça », ils ancrent l'outil dans son utilité première. Ce n'est pas un jouet, c'est un outil de travail spécialisé.
On arrive maintenant à la phrase qui, pour moi, est la plus importante de tout le document. Ils écrivent noir sur blanc que ce service vient compléter et non remplacer l'accompagnement humain.
J'avoue que mon réflexe cynique a été de me dire « ah, bien sûr, c'est ce que toutes les entreprises disent pour faire passer la pilule de l'automatisation et de la réduction des effectifs. Oui, c'est une méfiance tout à fait légitime. »
Est-ce qu'on peut vraiment y croire ?
Ben, dans 9 cas sur 10, vous auriez raison d'être sceptique. Si cette annonce venait d'une banque ou d'un opérateur téléphonique, on pourrait y voir une stratégie de réduction des coûts. Mais ici, le contexte change tout.
On revient à la date, 1987.
Exactement. Le modèle économique de Cessia n'a jamais été basé sur la réduction des coûts à tout prix. C'est un service de qualité et un accompagnement à long terme. Leur réputation repose sur l'humain.
Donc, détruire ce capital confiance serait contre-productif pour eux.
Ce serait un suicide commercial. Ce qui rend cette affirmation crédible, c'est qu'elle est alignée avec leur identité. L'IA ici ne remplace pas l'humain, elle le filtre.
Elle le filtre. Oui, elle prend en charge les questions simples et répétitives. Où est ma commande? Combien coûte ce produit? Et ce faisant, elle libère du temps précieux pour les conseillers humains qui peuvent se concentrer sur les cas vraiment complexes.
Les situations qui demandent de l'empathie, de la nuance, une expertise fine. L'IA gère le transactionnel, l'humain gère le relationnel.
C'est une collaboration homme-machine, en fait, au service du client, mais aussi des employés. L'IA rend leur travail potentiellement plus intéressant.
Précisément. C'est un modèle d'implémentation de l'IA qui est profondément sain. La citation du directeur général, Nelson Pereira, va dans ce sens. Il dit « Faire profiter l'ensemble de nos clients des nouvelles technologies, c'est aussi ça la culture Cessia. » Avec un C majuscule à culture, oui, c'est un geste marketing, certes, mais ça vise à dire « ce n'est pas un projet isolé, c'est la manifestation de qui nous sommes. C'est une promesse forte. »
Tout ça semble très positif, mais pour élargir un peu, est-ce qu'il n'y a pas des risques ? On parle d'une population pour qui l'accès à l'info est crucial. Une erreur de l'IA, une hallucination, comme on dit.
Ah, c'est un point absolument essentiel.
Ça pourrait avoir des conséquences bien plus graves qu'une info erronée pour un consommateur lambda.
Le risque existe et il est élevé. C'est certain. Une mauvaise recommandation de produit, par exemple, c'est pas juste une déception. Ça peut être un véritable obstacle au quotidien.
Alors, comment on gère ça ?
La responsabilité de ces CEO est immense. Ça implique, 1. Un entraînement et un test extrêmement rigoureux de leur modèle. 2. Des garde-fous très stricts. Et surtout, un bouton d'éjection très clair et toujours accessible pour parler à un humain.
Le recours à un conseiller doit être immédiat.
Immédiat et simple. La réussite de l'outil dépend autant de sa performance que de la robustesse de ses filets de sécurité.
Et comment cette initiative se positionne par rapport à ce que font les géants de la tech ? Apple, Google, Microsoft, ils investissent des milliards dans l'accessibilité. Leurs systèmes ont des fonctionnalités comme VoiceOver ou TalkBack.
Oui.
Pourquoi on ne voit pas ce genre de chatbot accessible directement intégré dans leurs propres services ?
C'est une excellente question. Ça touche à la différence entre l'accessibilité de la plateforme et l'accessibilité de l'application. Les géants de la tech, ils fournissent les outils de base, les briques.
D'accord.
VoiceOver peut lire ce qui est à l'écran. C'est indispensable, mais ça ne garantit pas que l'expérience soit fluide ou logique. Cessia, eux, ne construisent pas la plateforme, mais ils maîtrisent parfaitement le parcours de l'utilisateur final.
Leur avantage, c'est la connaissance de niche.
C'est ça. Ils savent exactement où sont les points de friction et ils ont utilisé l'IA pour aplanir ces frictions spécifiques.
Donc si je comprends bien l'analogie, les GAFAM construisent l'autoroute, mais ce sont des entreprises comme Cessia qui conçoivent la signalisation et les aires de repos adaptées.
C'est une très bonne analogie. L'un ne va pas sans l'autre. La force de Cessia est de ne pas essayer de tout résoudre pour tout le monde, mais de tout résoudre pour leur communauté.
Si on prend un peu de recul pour synthétiser, le principal enseignement de ce communiqué, finalement, il n'est pas technologique.
Non, pas du tout.
C'est une leçon de stratégie et de philosophie. C'est pas l'IA pour l'IA, c'est l'IA au service d'une mission.
Exactement. La vraie nouvelle, c'est pas que ChatGPT peut répondre à des questions sur un catalogue. La vraie nouvelle, c'est la réflexion, l'intentionnalité, les décennies d'expérience qui ont guidé l'application de cette technologie.
Le succès se mesure différemment.
Le succès se mesurera pas à la vitesse de réponse du chatbot, mais à sa capacité à rendre le quotidien de ses utilisateurs concrètement plus simple, plus fluide, plus indépendant. Le critère n'est plus « est-ce que l'IA est intelligente ?» mais « est-ce que l'IA rend la vie des gens meilleure ?»
Ce qui m'amène à une dernière réflexion, une question qu'on peut laisser ouverte. Ce communiqué, c'est la preuve qu'une entreprise spécialisée, avec une histoire, peut créer un outil d'une telle pertinence.
Oui.
Ça soulève une question de responsabilité, non ?
Absolument. Si Cédocia peut faire ça, quelle est l'excuse des créateurs de ces modèles d'IA, des grandes entreprises de la Silicon Valley, pour ne pas construire ce niveau d'accessibilité nativement dans leurs outils ?
Pourquoi c'est toujours une réflexion après coup ?
Pourquoi c'est une option qu'on ajoute plus tard, plutôt qu'un principe de conception fondamentale ? On parle souvent des biais dans les données d'entraînement des IA.
Oui.
Mais il y a peut-être un bien encore plus profond dans la conception même des produits. Ils sont pensés par défaut pour un utilisateur standard qui en réalité n'existe pas.
Construire pour les marges en sachant que ça bénéficiera au centre et non l'inverse.
C'est toute la question de la conception universelle, le Universal Design. L'accessibilité devrait-elle être une surcouche que des entreprises spécialisées doivent ajouter ou une propriété fondamentale de la technologie elle-même, dès sa naissance ?
C'est peut-être ça, le véritable enjeu pour la prochaine décennie de l'IA. Une question qui dépasse de loin ce simple communiqué, mais qu'il a eu le grand mérite de mettre en lumière.
Merci infiniment à tous nos abonnés d'avoir écouté le podcast de Cessia, le podcast de l'accessibilité. Nous sommes ravis de partager ces moments avec vous et avons hâte de vous retrouver pour un nouveau podcast. Vos idées et suggestions nous inspirent, alors n'hésitez pas à nous les partager. À très bientôt et prenez soin de vous.